Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, à mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver à l'écoute de Radio Vatican. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de notre programme dont voici les titres. Dans un tweet publié sur son compte X Pontifex pour les 1000 jours de conflit en Ukraine, le pape François appelle à mettre fin à la folie de la violence pour une paix juste et durable. Lutter contre la faim, le gaspillage, la pauvreté, le Saint-Père transmet sa préoccupation des plus démunis aux 20 dirigeants des principales économies mondiales dans un message lu lundi soir dans l'enceinte du G20 à Rio. Le pape appelle le G20 à éradiquer le fléau de la faim et de la pauvreté. Fin de la visite du cardinal Paul Richard Gallagher au Cameroun après 5 jours de présence dans le pays, à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de la signature de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République du Cameroun. Le secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États et les organisations internationales a été reçu avant son départ lundi en audience par le président Paul Biya avant de se rendre à l'Université catholique d'Afrique centrale. Nous retrouverons au Cameroun notre correspondante pour plus de détails avant de nous rendre en Côte d'Ivoire où, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des pauvres, dimanche 17 novembre, en la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro, le père Norbert Eric Abécan, secrétaire exécutif national de la Commission Justice, Paix et Environnement, a invité les fidèles à être plus attentifs aux pauvres. Après l'actualité sociopolitique en Afrique, nous reviendrons au programme Église verte au Bénin, une initiative désormais nationale. Le père Roger Sauvet, président du comité d'organisation de la conférence de l'Okosa sur le programme Église verte au Bénin, nous parlera des actions à mener dans le cadre de ce programme. Et nous terminerons notre édition par la rubrique prise de position des évêques et vie des chrétiens dans le monde.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
À l'occasion des 1000 jours de guerre en Ukraine, dans un tweet publié mardi 19 novembre sur son compte X Pontifex, le pape François demande de prier pour la population ukrainienne et rappelle une fois de plus que la guerre est toujours une défaite. 1000 jours de guerre en Ukraine, près de 200 appels lancés par le pape en faveur d'une terre qualifiée à plusieurs reprises de martyr. Il ne s'agit pas d'une épithète usée, mais d'une incitation constante à ne pas détourner les yeux du supplice auquel le peuple ukrainien est soumis depuis le 24 février 2022. À ces appels réitérés à chaque Angelus, Regina Cheli ou audience générale, le pape en ajoute un autre lancé depuis la fenêtre virtuelle de son compte X Pontifex en 9 langues ce 19 novembre, date à laquelle le déclenchement du conflit atteint le cap dramatique de presque 33 mois. Le Saint-Père, par la voix de son secrétaire d'État, le cardinal Parolin, a adressé un message lundi soir aux dirigeants du G20, actuellement réunis au sommet à Rio de Janeiro, au Brésil. Outre ce défi colossal, 733 millions de personnes souffrent de la faim en 2023, 9% de la population mondiale. Le Saint-Père renouvelle son appel aux grandes puissances à promouvoir une paix durable dans les zones de conflit. Xavier Sapre.
Ne plus investir dans les armes et réallouer ses fonds en faveur de la lutte contre la faim et la pauvreté. Le Saint-Père réitère cet appel au G20. Au-delà des guerres qui nourrissent ces deux fléaux, le paradoxe d'aujourd'hui est que plus de 3 milliards de personnes ne mangent pas à leur faim, alors que près de 2 milliards sont en surpoids ou obèses en raison d'une mauvaise alimentation ou d'une vie sédentaire, note-t-il. Le monde ne manque donc pas de nourriture, mais de juste répartition des ressources alimentaires. En cause, les injustices sociales et économiques. Or, l'acceptation silencieuse de la famine par la société humaine est une injustice scandaleuse et une grave offense, affirme le Saint-Père. Et de citer le catéchisme de l'Église catholique pour bien faire comprendre que ceux qui, par l'usure et la cupidité, provoquent la famine et la mort, commettent indirectement un homicide qui leur est imputable. Il faut donc agir de manière décisive et immédiate, en luttant notamment contre le gaspillage alimentaire, en réorganisant les systèmes alimentaires pour qu'ils soient durables sur le plan environnemental et bénéfiques pour les communautés locales. Communautés qu'il faut prendre en compte, en évitant ainsi une approche trop verticale qui ne ferait que favoriser les intérêts de quelques-uns. Pour cela, François place beaucoup d'espoir dans l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté.
Le cardinal Paul Richard Gallagher, secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États et les organisations internationales, est de retour au Vatican après une visite de 5 jours au Cameroun. C'était à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de la signature de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République du Cameroun. Lundi 18 novembre, dernier jour de sa présence dans le pays, l'envoyé spécial du Saint-Père a échangé avec le président camerounais Paul Biya avant de se rendre à l'Université catholique d'Afrique centrale pour sa leçon magistrale sur le thème « La diplomatie du Vatican et l'accord cadre ». Paul Valéry Mendogo.
Le secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États et les organisations internationales, Mgr Paul Richard Gallagher, a eu avec le président de la République du Cameroun, Son Excellence Monsieur Paul Biya, un échange convivial au cours duquel ils ont fait le tour d'horizon de l'actualité pertinente dans le monde, les préoccupations de la communauté internationale et les 10 ans de l'accord cadre entre le Saint-Siège et le Cameroun.
J'ai eu une très positive impression d'un président très engagé en faveur du bien de son peuple et très préoccupé pour la situation internationale. C'était vraiment une conversation très bien informée et très bien passée. Et j'étais très positivement impressionné que le président de la République tient une vision très claire et très, très engagée. Nous avons parlé des relations entre le Cameroun et le Saint-Siège et je crois que nous passons un bon moment de collaboration et de service, et nous sommes tout à fait très encouragés.
Mgr Paul Richard Gallagher quitte le Cameroun en laissant un peuple nourri par ses exhortations à la paix et au renforcement des relations entre le Saint-Siège et l'État du Cameroun pour le plus grand bien de tout le peuple camerounais et pour le salut des âmes. Paul Valéry Mondogo, depuis Yaoundé, pour Radio Vatican.
L'Église a célébré dimanche 17 novembre 2024 la 8e journée mondiale des pauvres. En Côte d'Ivoire, la messe solennelle marquant cette journée a été célébrée en la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro. De Père Norbert Eric Abécan, secrétaire exécutif national de la Commission Justice, Paix et Environnement, qu'il a présidé, a invité les fidèles à ne pas fuir du regard les pauvres, mais à être attentifs à leurs besoins. Marcel Aristoteble.
Revenant sur l'importance de cette journée, le père Norbert-Éric Abécan a tenu à remercier le pape François pour ce message dense qui, selon lui, invite à porter notre regard sur les pauvres parce que Dieu entend leurs prières.
La réalité, c'est qu'effectivement, il y a des pauvres parmi nous. Il y a des gens aujourd'hui qui dorment sous le pont. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger à leur faim. Il y a des gens qui meurent près des poubelles remplies de nourriture. C'est de tous ces pauvres que parle le pape et que chacun de nous devons être assez attentifs à eux, ouvrir nos oreilles pour entendre les cris de souffrance, ouvrir nos yeux pour les voir en situation délicate, ouvrir notre bouche aussi pour leur dire des paroles d'espérance, les soutenir.
La société africaine de plus en plus portée vers le capitalisme, le père Dominique Traoré, secrétaire exécutif national de la Caritas Côte d'Ivoire, a lui exhorté les fidèles ivoiriens à avoir le sens du partage, à ne pas perdre leurs racines africaines.
Nous sommes invités donc à savoir que nous sommes tous dans la maison commune et nous devons marcher ensemble et rechercher l'autonomie de chacun d'eux. Cette autonomie ne se fait pas en écrasant l'autre. C'est fait avec l'autre et pour l'autre.
Marcel Aristone Blé, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Passons à présent à l'actualité sociopolitique sur le continent. Le chef du principal parti d'opposition, Abdirahman Mohamed Abdoulaye, dit Hiro, a été élu président du Somaliland, région sécessionniste de la Somalie au cœur de vives tensions dans la Corne de l'Afrique. C'est ce qu'a annoncé mardi la commission électorale NEC. Avec 63,92% des suffrages, cet ancien diplomate âgé de 68 ans devance largement le président sortant Mousé Bihi, au pouvoir depuis 2017, est le leader du Parti de la Justice Sociale, Faisal Ali Warabi, selon les résultats annoncés à la presse par le président de la commission électorale. L'émissaire américain pour le Soudan, Tom Perriello, a rencontré lundi le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, à l'occasion de sa première visite dans le pays en guerre. Les discussions franches et longues à Port-Soudan sur la mer Rouge ont porté sur l'aide humanitaire et les moyens de mettre fin à la guerre, selon le bureau du général Burhan. Le premier ministre algérien Nadir Labaoui a procédé lundi à un remaniement ministériel, le général Saïd Chenghlia faisant son entrée au gouvernement comme délégué de la défense nationale, tandis que de nouveaux ministres ont été nommés à la justice et l'industrie. Le parti d'opposition au Mozambique, Renamo, a estimé lundi que les élections d'octobre devraient être annulées, contestant des résultats ayant donné gagnant le parti au pouvoir et qui a alimenté depuis des manifestations meurtrières dans tout le pays. Nous le disions dans notre précédente édition, le programme Église verte sera désormais l'affaire de toute l'Église au Bénin, un engagement d'ensemble dans la sauvegarde de la maison commune. Plusieurs actions seront menées dans ce sens, c'est ce que nous indique le père Roger Sauvet, vicaire général de l'archidiocèse de Cotonou et président du comité d'organisation de la conférence de Lokossa sur le programme Église verte au Bénin. C'était du 11 au 12 novembre dernier.
Il sera question d'élaborer, de mettre en œuvre une stratégie d'appropriation d'abord de Laudato Si, de Laudate Deo dans les diocèses. Et c'est pour ça que des comités diocésains vont être mis en place. À Cotonou, c'est déjà une réalité. Il y aura des comités diocésains maintenant dans chaque diocèse. Et selon les recommandations du cardinal, quand il était passé en janvier, il avait déjà mis en place un comité national Laudato Si. Le deuxième volet des actions, ce sera d'organiser chaque année la célébration du temps de la création, du 1er septembre au 4 octobre, et la célébration de la semaine diocésaine de l'écologie. Toutes choses qui permettront à ces comités de sensibiliser, de faire toucher du doigt à nos populations la réalité de la dégradation de l'environnement et notre responsabilité de le protéger pour notre bien. Parce que la question de l'environnement n'est pas une personne. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, nous sommes tous embarqués et nous sommes tous victimes de la dégradation de l'environnement aujourd'hui.
Quels sont les objectifs du programme Église verte à l'échelle nationale?
L'objectif, en fait, c'est principalement dans le domaine de l'enseignement. L'objectif principal sera de mettre en œuvre le mécanisme d'enseignement de l'écologie intégrale à travers les structures de l'éducation, donc nos complexes scolaires catholiques, les structures de santé, les structures de la famille, à travers la catéchèse, à travers les communautés de base et la pastorale paroissiale. En fait, tout ce qui embrassera toute la population pour que chacun soit véritablement sensible à la chose environnementale. Alors, si nous arrivons à impacter tout ce monde, je pense que le Bénin en sortirait vraiment vainqueur, voilà, dans la chose environnementale, je veux dire.
Les autorités gouvernementales en sont-elles impliquées?
Oui, les autorités gouvernementales sont vraiment impliquées. La preuve, c'est que nous avons eu déjà la dotation de poubelles de la part du gouvernement. Nous sommes en partenariat avec les organisations non gouvernementales. Et à la conférence de Lokossa, il y a le représentant du ministre de l'Environnement qui est resté avec nous du début jusqu'à la fin, avec d'autres directeurs départementaux de l'environnement, bien sûr. Donc, en fait, ce que nous sommes en train de faire est très important aux yeux du gouvernement qui nous accompagne sérieusement et qui est heureux que nous continuions dans ce sens.
Le père Roger Sauvet, vicaire général de l'archidiocèse de Cotonou et président du comité d'organisation de la conférence de Lokossa sur le programme Église verte au Bénin. Terminons cette édition par la rubrique prise de position des évêques et vie des chrétiens dans le monde. Christian Lossambé.
Françoise, commençons cette tournée avec le continent européen. En Ukraine, 1000 jours depuis le conflit russo-ukrainien, Mgr Visvaldas Kulbokas, nonce apostolique dans ce pays, revient sur les besoins essentiels des habitants, sur le cycle de la mort et de la destruction. L'Ukraine a subi le week-end dernier une attaque massive russe contre ses installations énergétiques, la forçant à annoncer des coupures de l'alimentation en électricité, une première depuis des mois. 220 000 usagers en sont toujours privés à Odessa, une situation dramatique que nous décrit le représentant du pape à Kiev.
Je ne rencontre pas beaucoup de gens ici qui comptent les jours de guerre. Les gens le font plutôt dans les autres pays ou sur des sites d'information pour des raisons statistiques. Au contraire, à Kiev, par exemple, nous sommes submergés par tant de problèmes que nous n'arrivons souvent pas à compter les jours ou les mois qui passent. Dans les régions autour de Kharkiv, de nombreuses personnes ont besoin de presque tout. Du bois pour le chauffage, aux produits d'hygiène, en passant par les vêtements pour l'hiver, l'eau et la nourriture. Je constate qu'il y a également des problèmes similaires dans la région de Zaporijjia. Idem dans la région de Kherson, les prêtres apportent de l'eau potable aux gens. Dans de nombreuses régions, l'eau potable est une denrée difficilement accessible. On a donc besoin d'un peu de tout. Et en revanche, les visites de groupes de prière ou de bénévoles sont toujours une source de joie, car elles permettent de croire qu'il y a de l'attention à l'international, de l'humanité, et cela donne de l'espoir. Le témoignage des volontaires et de ceux qui viennent ici crée un contraste en montrant qu'il y a de l'attention, du souci, de l'humanité.
Monseigneur Visvaldas Kulbokas, nonce apostolique en Ukraine, des propos recueillis par notre consoeur de la rédaction ukrainienne de Radio Vatican. En France, un calendrier plus précis de la réouverture de la cathédrale liée aux grandes heures religieuses et politiques du pays a été dévoilé en conférence de presse mercredi 13 novembre à Paris. 2000 personnes, dont plus de 150 évêques de France et du monde, ainsi que des chefs d'État étrangers, participeront aux deux jours de réouverture, les 7 et 8 décembre prochains. 15 millions de visiteurs sont attendus chaque année dans Notre-Dame restaurée. La cathédrale de Paris s'apprête à retrouver un éclat et une grâce renouvelés, 5 ans après l'incendie l'ayant partiellement ravagé. On ressent une impression de grande simplicité et d'extrême délicatesse. Tout est beau, tout invite à la prière et au recueillement, a indiqué le recteur de la cathédrale, Mgr Olivier Ribadeau-Dumas, à quelques semaines de sa réouverture. De l'Europe, rendons-nous à présent sur le continent asiatique. Au Liban, tandis que les bombardements sur Beyrouth se poursuivent, les sœurs de Notre-Dame de la Charité du Bon Pasteur continuent de faire fonctionner le centre de soins Saint-Antoine au cœur de Rouaisset, un quartier populaire du Maine. Immeubles dégradés, fils électriques enchevêtrés, ruelles branlantes, nous sortons le matin sans savoir si nous rentrerons le soir et c'est notre réalité quotidienne. C'est ainsi que sœur Anan Youssef, une des sœurs de la Charité, décrit sa vie quotidienne aujourd'hui à Beyrouth. Bon nombre des gens ont en effet peur de venir travailler, étant donné qu'ils se trouvent dans ce district et sont donc plus exposés au scénario de guerre actuel, a expliqué sœur Anne Youssef. En Corée du Sud, des rencontres bilatérales des évêques de ce pays et du Japon du 11 au 14 novembre. Ce rassemblement marque une nouvelle étape dans le chemin synodal des évêques de Corée du Sud et du Japon, commencé il y a environ 30 ans. Nous continuerons à nous soutenir mutuellement et à promouvoir de plus grands échanges, non seulement entre nous, évêques, mais aussi à tous les niveaux de l'Église, en particulier parmi les jeunes, ont souligné les prélats. Refermons cette rubrique avec des nouvelles du Nicaragua en Amérique. Dans son message, le Conseil épiscopal d'Amérique latine et des Caraïbes a adressé au cardinal Leopoldo José Brenes, archevêque de Managua et vice-président de la Conférence épiscopale du Nicaragua, à la suite de l'arrestation et de l'expulsion de l'évêque de Jinotega, le président de la conférence, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, dans la soirée du 13 novembre. Dans la missive du CELAM, les évêques latino-américains expriment leur proximité et fraternité à l'église du Nicaragua et à tous les fidèles du pays. Toujours au Nicaragua, les prêtres catholiques ne peuvent plus entrer dans les hôpitaux publics pour l'onction des malades, selon les informations de la presse locale. Cette mesure répressive prise par le gouvernement a plongé dans la tristesse et l'indignation les proches et les malades eux-mêmes, qui quittent ce monde sans avoir reçu ce dernier sacrement, a indiqué la presse locale.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention.